l'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes, conté par le professeur Ahmed Jabbar.
Un esprit sain dans un corps sain. Tout le monde connaît cette célèbre citation du début du 19e siècle. Mais elle est étonnante d'actualité quand on s'aperçoit que la médecine, à l'époque de l'âge d'or des sciences arabes, cherche à la fois à conserver la bonne santé par l'hygiène et la diététique, mais oui, déjà, et en même temps à soigner certaines maladies. Mais la médecine de ce talent va même plus loin puisque des manuscrits et des instruments témoignent de pratiques chirurgicales. Ne pas oublier non plus que la médecine arabe se développe largement grâce à de grandes figures telles les incontournables Ibn Sina, Avicenne ou Ibn Rushd pour Averroès. Ce soir, ce grand chapitre de la médecine au moment de l'âge d'or des sciences arabes, c'est encore mieux que les séries américaines Urgence ou Grey's Anatomy. Une médecine arabe qui se transforme aussi, d'ailleurs, en art vétérinaire pour les animaux. Professeur Jabbar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on vous retrouve avec plaisir pour ce soir le grand chapitre sur la médecine. C'est quand même un des pivots des sciences arabes. Alors est-ce qu'on peut dire ce soir qu'on aura moins de bobos à la fin de l'émission quand on vous aura écouté?
En tout cas, on aura peut-être moins de bleu à l'âme, comme on dit.
Joliment dit.
Ou en tout cas, on aura peut-être réparé un peu notre mémoire, parce oui. qu'on apprendra des petites choses.
On va apprendre de grandes choses, comme chaque semaine. Alors, est-ce qu'il y avait une médecine en Arabie au tout début de l'islam? Je suppose que oui.
Oui, tout à fait. Il y avait essentiellement ce qu'on appelle une médecine populaire, par opposition à une médecine savante qui va être puisée dans les livres que l'on va découvrir, comme pour les autres sciences, dans des traités que l'on va trouver dans des bibliothèques. Alors donc, cette médecine populaire, c'est quoi? C'est d'essayer de préserver la santé.
C'est-à-dire comme aujourd'hui, ne pas grignoter entre les repas, manger moins gras, moins salé, moins sucré, faire du sport.
En tout cas, les buts sont les mêmes,
oui.
Même si les moyens, évidemment, ne sont pas les mêmes, ils sont oui. moins scientifiques. C'est préserver la santé et c'est la rétablir. Et là, il s'agit de santé physique, mais aussi, il y a la santé mentale. Donc en fait, tout le programme y est. Donc il y a de la diététique, évidemment, à la manière populaire. Il y a de l'hygiène de vie, à la manière populaire. Et il y a des soins par les plantes. Et puis pour guérir ce qui est un peu lié à l'esprit, à l'âme, disait-on à l'époque, avant l'islam, eh bien il y a toutes les opérations qu'on pourrait qualifier d'astrologiques, de magiques, etc. À partir du moment où les patients y croyaient, donc ça procédait de la dimension un peu psychologique, psychique. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas en rire ni en sourire, parce que c'était les moyens d'essayer de soigner certains aspects qui n'étaient pas visiblement de la maladie au sens physique du terme.
C'est-à-dire que les maladies psychosomatiques, on les essayait de réparer, de rétablir en quelque sorte les choses par exemple l'astrologie, les soins par les plantes, etc., etc.
Par exemple, on pouvait même utiliser l'astrologie d'ailleurs pour atténuer même des maux physiques. Par exemple, nous savons qu'à un moment donné, ben, on a utilisé des amulettes pour pouvoir soigner ou bien préserver la santé ou bien... On a trouvé aussi, par exemple, une technique qui va se développer plus tard, quand on a su ce que c'était qu'un carré magique, et là on revient aux mathématiques, bizarrement, c'est un carré avec des cellules dans lesquelles on dispose les nombres entiers, de 1 jusqu'à 9, par exemple, et puis, quand on les dispose d'une manière absolument harmonieuse, alors les astrologues pensaient que ça pouvait servir pour la santé, en particulier au 10e siècle, ça je parle du 10e, en fait, ça a été utilisé avant. Bien, on les mettait sur le ventre d'une femme enceinte, et puis, à condition de le mettre au bon moment, en fonction de certains facteurs astronomiques, en fonction de la date de naissance de la dame enceinte, etc., eh bien, ça pouvait, disait-on, diminuer ou même éliminer les douleurs de l'accouchement. Et donc, voilà une utilisation qui était plutôt psychosomatique.
Si oui, c'était la péridurale avant l'heure.
Et puis, il y avait ce qu'on appelait dans cette médecine populaire, une partie qu'on a appelée la médecine du prophète, Tibb an-Nabawi. En fait, c'est la partie de la médecine populaire qui avait été pratiquée dans l'entourage du prophète, par le prophète lui-même, et dans la ville où il a vécu à Médine, et même dans l'environnement arabe. Et donc, c'est une médecine qui était faite, effectivement, de diététique, d'hygiène, de soins par les plantes, etc. Et cette médecine va, plus tard, être préservée amoureusement par souvenir de l'époque du prophète. Même lorsque la médecine savante, vraiment très, très puissante, qui vient des Grecs essentiellement et des Indiens, va être enseignée, eh bien, elle ne va pas marginaliser cette médecine populaire parce qu'elle avait un côté affectif, disons, lié à la période du prophète. Voilà. Surtout que cette médecine, qui était essentiellement populaire, ne faisait pas de mal, disons. Donc, quand elle ne pouvait pas soigner, elle ne faisait pas de mal. D'ailleurs, tout le monde n'était pas d'accord avec cette médecine populaire, tout en respectant le prophète et ce qu'il avait pratiqué. Parce qu'il considérait à un moment donné, quand le niveau d'instruction s'est élevé, eh bien, l'élite considérait que la vraie médecine, c'est la médecine savante.
D'accord, et que ça restait, je dirais, des remèdes de grand-mère, comme on dirait aujourd'hui.
Si vous voulez, pour vous convaincre, moi j'ai une petite citation d'Ibn Khaldoun, qui est un grand intellectuel, qui est l'un des plus grands historiens de l'histoire de l'humanité, qui est maghrébin, et qui, quand il évoque la question donc de la médecine populaire, c'est la médecine du prophète, eh bien, il a une position qui n'est pas, disons, favorable. Alors, il dit la chose suivante, il dit « Le prophète a eu pour mission de nous faire connaître les prescriptions de la loi divine, et non pas de nous apprendre la médecine. » C'est intéressant, ça.
Oui, c'est-à-dire
il ne critiquait pas ce que disait le prophète. Critiquer ceux qui vont utiliser abusivement les principes qui étaient en cours à son époque, et les pratiques communes de la vie quotidienne. On n'est donc pas tenu de croire que les prescriptions médicales rapportées dans les traditions authentiques nous ont été transmises comme des règles que nous sommes tenus d'observer.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une obligation, divine là-dedans.
Et il ajoute, rien dans ces traditions n'indique qu'il en soit ainsi. C'est très intéressant. Et on ne peut pas l'accuser de ne pas être un bon musulman.
Absolument, voilà. Oui. Mais il prenait le recul nécessaire.
Absolument, absolument. D'ailleurs, même le prophète, d'ailleurs, tout en pratiquant et en soutenant la médecine populaire, parce que c'était la médecine qui était accessible à tout le monde à l'époque, on savait qu'il avait un médecin, Harith ibn Kalada, lui qui, d'après la tradition, aurait été formé à la médecine savante. Et on dit d'ailleurs qu'il avait été formé à Gundishapur. Quand on dit Gundishapur, c'est chez les Persans le lieu où on formait les médecins. Comme on dit pour les Grecs, le lieu où on forme les médecins, c'est Alexandrie.
Absolument, grosso modo. Oui.
Donc vous voyez, il y avait déjà à l'époque du prophète, il y avait les deux. Mais c'était très déséquilibré. Il y avait un médecin de la médecine savante, qui était proche du prophète, et puis il y avait la médecine populaire.
Quelles sont les sources, justement, de la médecine savante arabe, là aussi?
Alors, si vous permettez, je voudrais juste ajouter quelque chose qui concerne le prophète aussi, qui est très important, parce que ce qu'il va dire au sujet de la médecine et de la santé, surtout pour les couches qui ne pouvaient pas accéder plus tard à la médecine, eh bien, va être fondamental pour l'hygiène de vie. Ce qui explique, à un moment donné, en particulier avec certains versets du Coran qui poussent à l'hygiène, et surtout des citations du prophète, pourquoi il y a eu une sorte de comportement culturel pour toujours essayer de veiller à l'hygiène, veiller à la diététique. Alors regardez ce que dit le prophète, je vous ai apporté une petite citation très intéressante. Alors il dit « Contemplez l'eau qui ruisselle, les jardins fleuris et les beaux visages constituent un enchantement pour l'esprit et le corps. » C'est plein de bon sens.
Absolument, rechercher les belles choses pour se reposer l'âme.
Quand quelqu'un, un kidam, dit ça, on dit c'est le bon sens. Mais quand c'est le prophète qui le dit,
ça prend une autre dimension.
Ça va être une dimension à la fois très très importante et même une sorte de mode de vie, un guide. Alors, il aurait dit aussi quelque chose qui est très très important sur le plan de la psychologie du malade, de la psychothérapie, vous imaginez. Il a dit, quand vous rendez visite à un malade, insufflez-lui toujours l'espoir. Cela ne changera peut-être pas grand-chose au cours de la maladie, mais réconfortera l'âme du patient en lui donnant plus de vigueur. C'est très très joli.
Absolument, et c'est à la fois plein de bon sens, et c'est une attitude très positive devant les aléas de la vie.
Le fait que ce soit le prophète qui l'ait dit va avoir une importance beaucoup plus grande.
C'est évident.
Et qui va intervenir objectivement dans certains types de comportements. Et par exemple, je pense que ce n'est pas totalement indépendant du fait que, concrètement, dans les villes des pays d'islam, dans les petites villes, les moyennes, les grandes villes, l'élément central, c'est la mosquée, et tout de suite après, c'est le hammam.
Oui, qui permet de purifier l'âme et le corps.
Absolument.
Le hammam, qui saurait s'en passer.
Alors, par exemple, on a quelques chiffres sur les hammams. À Bagdad, au Xe siècle, XIe siècle, on avait un hammam par rue.
Oui, c'était déjà une grande ville.
Oui, absolument. À Cordoue, on avait comptabilisé 6000 hammams. pour la ville. Elle n'est pas très grosse par rapport à Bagdad.
Hein. Oui, oui, oui.
À Kairouan, qui était la première capitale du Maghreb, hein, il y avait un hammam pour 80 habitants, d'après les informations qu'on a eues.
C'est-à-dire c'est mieux qu'aujourd'hui, quoi.
Ah, c'est mieux qu'aujourd'hui, oui.
Oui, parce qu'on n'en a pas dans tous les quartiers.
Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a les salles de bain.
Oui, mais rien ne vaut un bon hammam.
Mais pour une hygiène populaire, c'est fondamental. Donc là, c'était vraiment un mode de vie. Et il est à relier aussi à tous ces principes, quand même,
oui, oui.
Qui proviennent de la religion, édictés par le prophète en particulier.
Oui, par le Coran, oui.
Voilà.
Alors, ma question était, avant que vous ne vous apportiez ces précisions, et je vous remercie à chaque fois, hein, vous n'hésitez pas, quelles sont donc les sources de la médecine savante arabe?
Alors, les sources de la médecine...
Les Grecs connaît. Encore?
Les Grecs et les Indiens. Mais il ne faut pas négliger les Indiens. Il y a eu de grands médecins de l'Inde, comme Kanaka, comme d'autres, comme Susruta. Et nous savons qu'il y a des livres de médecine qui ont circulé, qui sont arrivés jusqu'à Bagdad. Nous ne savons pas si la médecine chinoise est arrivée à Bagdad. En tout cas, l'acupuncture ne semble pas avoir été un chapitre de la médecine arabe. C'est dommage. Oui. Ou alors les recherches ne sont pas assez avancées. Mais tout est possible, vous savez. En tout cas, médecine indienne, mais évidemment 90% médecine grecque. Et dans la médecine grecque, 90% de cette médecine, c'est Galien. Alors Galien, 2e siècle après Jésus-Christ, c'est un grec qui a vécu à l'époque romaine et qui, paraît-il, a même perfectionné sa médecine en allant voir les gladiateurs qui combattaient avec les lions. Eh bien, il aurait laissé 129 écrits, petits, moyens, monumentaux. Eh bien, ces 129 écrits, où la majorité ont été retrouvés et traduits, d'abord traduits avant l'islam, il y a eu 117 qui ont été déjà traduits en syriaque, qui est la langue des chrétiens minoritaires, persécutés par Byzance, mais ethniquement arabe, culturellement arabe aussi. Ils connaissaient le syriaque, qui est de la même famille, et l'arabe. Et ensuite, ce sont ces livres-là qui, d'abord, parce qu'on en avait besoin pour l'élite, pour les marchands, etc., vont être traduits vers l'arabe. Donc, bizarrement, mais enfin c'est naturel, puisque je l'ai expliqué maintenant, les traductions d'ouvrages grecs ne se sont pas faites du grec à l'arabe. D'abord, du syriaque à l'arabe. Et parfois même, d'ailleurs, on n'a même pas fait de traduction. Parce que les médecins avaient appris leur médecine en grec, ou l'avaient apprise en syriaque, ou l'avaient apprise en pehlevi. C'était des persans. Mais comme les malades avaient besoin d'être soignés...
Il fallait faire vite.
Même pas. On ne leur demande pas de parler en grec ou en arabe ou en soignant. Le médecin, il ne parle pas en soignant, ou rarement. Il soigne.
Voilà. C'est ce qu'on lui demande.
Donc le malade se soucie peu qu'il ait appris sa science en arabe ou en grec.
Pourvu qu'il soigne.
Pourvu qu'il soigne et qu'il soigne bien. Donc lorsque la médecine va devenir arabe, ce n'est pas parce que les malades l'ont exigé. Ce n'est pas parce que les califes l'ont exigé par un souci culturel pour développer l'arabe, pour arabiser la médecine. Mm-hmm. C'est ridicule. Les historiens souriraient s'ils entendaient ça. C'est tout simplement parce que, je l'ai déjà dit, lorsque le niveau d'instruction de nombreuses couches de cet empire monde va s'élever, les nouvelles générations vont être arabisées, eh bien, elles vont étudier, certaines d'entre elles vont étudier les mathématiques, l'astronomie, d'autres la médecine,
oui.
Et alors elles ne connaissent ni le grec, ni le syriaque, ni le persan. Il faut les former. Dans quelle langue? Eh bien, en arabe. Donc on a éprouvé le besoin de traduire directement à ce moment-là, pour aller vite, soit du syriaque à l'arabe, soit du grec à l'arabe. Et parfois on a retraduit des livres qui avaient déjà été traduits par souci de précision. Et c'est comme ça que pratiquement tous les ouvrages de Galien ont été traduits. Il faut ajouter à Galien les ouvrages d'Hippocrate, quand même. C'est un grand...
Ah oui, 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 Hippocrate...
Et ce que doivent savoir les auditeurs, c'est que le serment d'Hippocrate, les premiers, après les Grecs, qui l'ont pratiqué dans leur au quotidien, ce sont les médecins des pays d'islam. Et nous avons ce serment traduit en arabe. Il est dans les livres d'histoire de la médecine. Et l'étudiant doit l'apprendre par cœur, dès le 9e siècle, il doit l'apprendre par cœur. Et quand il est devant ses maîtres, ses professeurs, avant qu'on lui donne le diplôme, qu'on le consacre médecin, il faut qu'il récite ce serment en arabe. Donc vous voyez cette dimension universelle,
oui.
du médecin.
Universelle et humaniste surtout. Quels ont été les débuts de la médecine savante arabe alors?
Ils vont très vite assimiler le savoir grec, surtout que beaucoup de médecins, des califes, des princes, etc., avaient déjà appris cette médecine en grec. Donc, ça va être dans la lancée. Il y a juste un problème, c'est que pendant un certain temps, quand même, l'enseignement de la médecine, la formation des médecins, en tout cas des grands médecins, pratiquait un certain monopole. Et donc, il n'y avait que quelques familles qui produisaient les très bons médecins et les grands médecins. Et ces familles, on a même réussi à les lister. Il y a par exemple la famille des Bartichoua, il y a la famille des Massawaï. Ces noms-là donnent un peu persan.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ils ont une connotation.
Voilà, la famille des Taïfouri. Alors quand je dis la famille, il y a le médecin d'Al-Mansour, ensuite les califes s'en vont, d'autres viennent. Les médecins s'appellent toujours Bartichoua.
D'accord.
C'est le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, etc., etc. C'est sur 7 générations parfois, vous imaginez, de grands médecins. Ensuite, il y a la famille des Ibad, la famille des Sarapioun. Donc ce sont des familles persanes, chrétiennes, païennes qui ont essayé de conserver le monopole, du moins au centre de l'Empire. Mais comme l'Empire était immense, ils ne pouvaient pas contrôler la médecine à la périphérie, et même très vite. Donc à Alexandrie, ce n'était plus eux. En Asie centrale, au Maghreb, en Andalousie, eh bien, ce sont de nouvelles générations. Donc ce sont les gens du cru. Et donc les grands médecins de ces régions-là sont originaires de ces régions. Donc ils sont berbères au Maghreb, ils sont berbéro-hispaniques
en Andalousie.
Ou arabes aussi, parce qu'il y avait des arabes quand même minoritaires en Andalousie. Ils étaient persans en Perse, etc., etc. Donc la médecine arabe a été enseignée en arabe, écrite en arabe, pratiquée en arabe, mais toutes les confessions, toutes les origines se sont lancées dans cette aventure.
Et se sont côtoyées. Les hôpitaux, ils apparaissent quand en pays d'islam? Quand est-ce qu'ils deviennent un lieu de rétablissement ou de prévention de la santé pour un maximum de personnes?
Alors, les auditeurs doivent savoir que le concept d'hôpital existait avant l'islam. Ne serait-ce que parce que le mot hôpital en arabe, du 9e siècle jusqu'au 19e siècle, qui a accompagné les hôpitaux dont on va parler, ce mot n'est pas arabe. C'est bimaristan, qui est un nom persan, qui veut dire lieu de soins. Et donc déjà, le fait qu'il y ait un nom pour désigner des lieux de soins, ça veut dire qu'il y avait eu des lieux de soins. Maintenant, quelle est leur importance? Quelle est leur sophistication? Quel est leur fonctionnement? Ça, nous ne savons pas. Mais toujours est-il qu'il est vraisemblable qu'on a pris un concept qui était déjà chez les Byzantins ou chez les Persans, et puis on va le développer. Donc vous voyez, c'est toujours la même démarche chez cette civilisation, c'est de faire des emprunts et de développer cet emprunt.
De perfectionner.
Et de perfectionner et d'ajouter son génie propre. Alors pour les hôpitaux, ça va être la même chose. Il va y avoir d'ailleurs plusieurs types d'hôpitaux. Il va y avoir d'abord des hôpitaux de campagne pour les militaires, ne serait-ce que parce qu'il y avait la guerre.
C'est vrai qu'on n'y pense pas.
On n'y pense pas, mais si. Mais même déjà à l'époque du prophète, le prophète a pensé avoir une sorte d'unité mobile. Et on disait même que ce sont des femmes qui s'occupaient des blessés.
En islam à l'époque?
Absolument, absolument. Absolument. Et donc ça a continué après. C'est comme si c'était une bonne tradition. Donc ça a continué. Donc la notion d'infirmière, vous voyez, hein, ça, on n'a pas attendu donc le 18e siècle.
Heureusement.
Oui. Ensuite, il y a eu des dispensaires. Donc ce sont pour les civils, mais plus légers.
Oui, oui, des petites unités. Des petites unités.
Nous avons des informations.
Ou dans,
voilà. Mais les vraies institutions d'État, ensuite des institutions financées par le système de waqf, donc de biens de main morte.
Vous nous en aviez parlé la dernière fois, oui.
Donc ce sont des institutions énormes. Ce sont des bâtisses grandes, avec des dizaines et dizaines de pièces, avec des cours, avec une pharmacie, avec des sections, section hommes, section femmes, avec certains hôpitaux, un grand nombre d'hôpitaux, avec une section spéciale pour les maladies mentales.
La psychiatrie, donc.
Absolument, dans certains, enfin la psychiatrie de l'époque. Oui. À partir d'un certain moment même, il y a l'hôpital de Halab, qui s'appelle l'hôpital Araroun, qui a été construit au XIVe siècle. Eh bien, il a deux sections de malades mentaux. Il y a les malades mentaux légers et les malades mentaux lourds. Et ils avaient deux sections physiquement,
séparées,
avec des chambres, avec une cour, etc. On en parlera après. Donc, mais les premiers hôpitaux, d'après nos informations, apparaissent à Bagdad. Le premier hôpital a été construit, financé par Haroun al-Rashid. Et après, toutes les grandes villes, toutes les villes importantes de chaque région de l'Empire a eu son hôpital ou ses hôpitaux. Bagdad a eu au moins 5 hôpitaux, grands hôpitaux. Damas a eu 3 hôpitaux des plus grands. Le Caire a eu 3 hôpitaux, si on ne recense que les grands. On ne parle pas des petits dispensaires de quartier. Halab a eu 3 hôpitaux, alors qu'elle n'a jamais été une capitale. Istanbul, 4 hôpitaux. Au Maghreb, Tunis a eu un hôpital. Marrakech, Grenade, Tlemcen, Cordoue. Tlemcen, ce n'est pas sûr, mais elle a eu en tout cas des lieux de soins. Donc vous voyez, alors en Asie, chaque grande ville comme Ispahan, comme Shiraz, etc., Samarkand, avait un hôpital, 2 hôpitaux. Et il fonctionnait comment? Et là, je reviens à votre question. Eh bien, il fonctionnait en lieu de soins, d'abord, mais aussi en CHU.
Oui, c'est ce que je vous avais demandé dans une précédente émission. Oui.
Absolument.
Je vous avais dit, ça ressemble étrangement à nos CHU, centres hospitalo-universitaires.
Alors, il n'y a pas universitaire, mais c'est un centre de soins et d'études et de formation.
Voilà, bon, ça revient au même.
Oui, oui, mais le concept est là. Et en plus, il y a toujours intégré une pharmacie. Et pharmacies dont les produits sont totalement gratuits, et c'est marqué, même dans les textes de donation et de habous, c'est marqué que quiconque doit être soigné dans les hôpitaux, qu'il soit musulman ou non musulman, qu'il soit libre ou esclave, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit militaire ou civil, quiconque doit être soigné. Et il doit être soigné gratuitement. Et les médicaments doivent lui être donnés gratuitement.
Quel progrès!
Absolument. Et ça, c'est marqué. C'est-à-dire que si j'avais le temps, je vous lirais des passages des fondations, disons, des textes signés par les donateurs quand même, et contresignés par le juge, le ravi. Et donc, ces lieux de soins étaient aussi des lieux d'apprentissage. Donc, il y avait aussi ce qu'on appelait des services, ophtalmologie, orthopédie, maladies de l'estomac, etc., et avec des professeurs spécialisés. Et les professeurs spécialisés venaient le matin, leurs étudiants les suivaient, ils faisaient
la tournée des malades.
Ils avaient certains, comme Razi par exemple, c'est l'un des plus grands, mais ils avaient leur calepin, ils prenaient des notes, ils notaient les remarques, ils donnaient des remarques à leurs étudiants, et l'après-midi, ils recevaient les étudiants pour les cours théoriques. Ce n'est pas dans l'hôpital cette fois, c'est là où habitait le médecin.
Chez lui,
parce qu'il était aisé quand même, et puis c'était pas n'importe quel médecin. Je parle des grands médecins, des médecins de famille,
bien sûr,
ou des médecins de campagne, il y en avait aussi. Voilà. Et puis parallèlement, il y avait toujours cette médecine populaire qui était pour les gens qui ne pouvaient pas accéder, par exemple, ne serait-ce que dans les campagnes.
Alors, c'est comme ça que se faisaient les études de médecine et que fonctionnaient les hôpitaux en pays d'islam. Alors, la pharmacie dans tout ça, est-ce que, je dirais, c'était aussi une formation complémentaire, parallèle? Comment ça se passait? La pharmacie, elle tire ses sources d'où? Quelle est la différence? Alors, est-ce qu'on peut parler plus de pharmacie ou de pharmacopée? Parce que c'est pas pareil.
Alors, de toute façon, comme il y avait des études de médecine, nous avons des témoignages qui affirment qu'il y avait des études de pharmacie.
Parce que ça va ensemble, en fait.
En formé, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des droguistes.
J'aime bien le mot.
Oui, ce sont des gens qui avaient des formations de base, de médecine, et qui ensuite avaient des formations de pharmacopée. On en revient à la pharmacopée. Donc, des propriétés des plantes. Pas seulement des plantes. Les plantes, on va les appeler des médicaments simples. Parce qu'on prend une plante telle qu'elle, on ne la change pas, et elle soigne telle chose.
Oui, bien sûr, fait un cataplasme, une tisane, etc., voilà. Ça peut aider, voilà. Oui.
Ça s'appelle donc Edouya Mufrada. Et puis, il y a les Edouya Murakkaba. Donc, ce sont les médicaments composés à partir de plusieurs plantes, ou alors à partir de minéraux et à partir de choses organiques.
Ça veut dire qu'on a fabriqué des médicaments.
Absolument, voilà. Puisqu'il y avait des pharmacies. On n'allait pas dire « aller voir l'herboriste ». Il y avait l'herboriste. Mais il y avait le pharmacien. Après, il y aura un mélange, après, quand il y aura un peu le déclin. Mais sinon, le pharmacien était distinct. On savait, bon, personne ne l'empêchait de vendre des herbes.
Hein, oui, non, c'est clair. Mais
tisanes.
Il y avait le pharmacien.
Même aujourd'hui, le pharmacien vend la tisane.
Dans le même esprit que ce que l'on connaît aujourd'hui.
Oui, de manière réduite, mais toujours pour les besoins d'une activité qui était la médecine et les soins. Et puis, il y avait surtout des tentatives de théorisation pour savoir comment fabriquer des médicaments à partir des éléments simples qui sont les plantes ou bien les produits naturels.
Est-ce qu'il y a comme ça des personnalités qui ressortent en matière donc de, par exemple, en tant que pharmacien ou des personnes qui auraient fait des recherches sur la pharmacopée?
On met dans la pharmacopée en général les botanistes qui ont travaillé sur les plantes médicinales. Et le plus grand, c'est Ibn al-Baytar, 12e, 13e siècle, qui a fait une nomenclature, toutes les plantes qu'il a pu rassembler. Il a ajouté 400 noms de plantes en plus de ce qu'avaient fait les Grecs, qui avait fait un très gros travail, en particulier Dioscorite, et au 1er siècle après Jésus-Christ. Et surtout, les pharmaciens, parce que lui, c'est un nom qui perce, mais il y a d'autres pharmaciens. Les pharmaciens sont anonymes. Hein, ils n'ont pas, ou alors ceux qui ont écrit sur les médicaments, ce sont des médecins pharmaciens. Et donc, l'élément le plus important, c'est qu'ils ont étudié les plantes, d'ailleurs de deux manières. Il y a eu des études des plantes d'une manière strictement selon une démarche linguistique.
C'est-à-dire?
On voulait arabiser, faire le lexique des plantes. Et donc, dans les premiers lexiques, les plantes étaient évidemment arabes, mais étaient souvent grecques parce qu'on prenait les noms grecs. Parce que c'était eux les plus puissants en médecine. Puis ensuite, on a éprouvé le besoin quand même d'enrichir cette nomenclature, et puis surtout d'arabiser, de trouver l'équivalent en arabe, soit parce que les plantes existaient déjà, comme elles n'étaient pas utilisées, donc elles restaient isolées des autres. Et donc, on a fait... Ibn al-Baytar, c'est lui qui a arabisé le plus, et a même internationalisé la pharmacopée, parce qu'une plante, il lui donnait son nom arabe, son nom latin, son nom berbère, son nom grec, tout simplement pourquoi ? Persan, pour que les gens l'utilisent et la connaissent là où ils sont.
Ah, c'est
donc
génial,
c'est cette dimension
ça.
Aussi toujours de l'Empire Monde, et on écrit un livre non pas pour sa tribu, pour sa ville,
mais pour, tout
mais pour l'Empire.
Presque l'humanité.
C'était l'Empire. Et donc, vous voyez, cette démarche, on la retrouve un peu partout. Donc, d'élargir l'horizon, d'élargir le champ de la consommation, d'élargir le domaine des utilisateurs. Et ça, c'est un aspect de cette mondialisation, cette première mondialisation, si vous voulez, de la science.
Alors, juste un mot sur Ibn Sina et Ibn Rushd, parce qu'ils sont quand même parmi les plus connus, et surtout sur les pratiques qui seraient déjà à l'époque des pratiques chirurgicales, puisqu'on a trouvé des instruments et des ouvrages qui parlaient de chirurgie.
C'est surtout, ce n'est pas Ibn Sina et Ibn Rushd qui sont connus pour la chirurgie. Bien sûr, Ibn Sina a fait une très belle synthèse Averroès, dans le canon clavicien, le canon.
Oui.
Averroès a fait une très belle synthèse aussi dans les colliettes, les colligés. Mais ce sont les médecins techniciens, si j'ose dire, les praticiens,
d'accord,
les chirurgiens, les ophtalmologues, qui vont apporter des choses nouvelles dans la pratique. Vous savez, Ibn Sina n'a pas été un très grand praticien. Ibn Sina, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je l'ai même dit il y a quelques mois en Iran, hein, ça ne les a pas choqués, parce que je leur ai dit, écoutez, arrêtez de ne parler que d'Ibn Sina, vous avez aussi de très grands,
oui,
comme Razi, comme d'autres. Razi, c'est l'un des plus grands médecins, parce que lui, il a quand même fait des choses, en pratiquant, il a découvert quand même, il a su diagnostiquer la variole, la rougeole, bien sûr.
Oui, les épidémies.
Absolument, allez, on parlera des épidémies,
oui,
après,
oui, oui, oui.
C'est plutôt en Occident musulman. Donc je reviens à la chirurgie. Nous avons des livres de chirurgie générale, hein, et de chirurgie de l'œil, hein, d'ophtalmologie. Et en particulier, il y en a un qui est devenu très très célèbre, mais en fait il n'est pas le seul, hein, c'est encore l'arbre qui cache la forêt, parce que les Européens l'ont traduit, mais les autres n'ont pas été traduits, donc il est devenu célèbre depuis le XIIe siècle. C'est le livre, c'est un chapitre en fait, même pas un livre, le 30e chapitre du livre qui s'appelle Kitab al-Tasrif. Liman ajaza an at-ta'lif. J'arrive pas à le traduire, c'est un peu difficile.
Mais en gros, ça voudrait dire
pratique pour celui qui ne sait pas rédiger.
D'accord.
Voilà, ou qui ne sait pas concevoir des choses de la médecine. Et dans le 30e chapitre, il y a tous les instruments chirurgicaux qu'utilisait ce grand médecin qui s'appelait Zahraoui, né dans Madinat Zahra, d'où son nom, qui était la nouvelle capitale construite par Abdelrahman III au Xe siècle, pour s'éloigner de Cordoue qui était un peu agité. Et Zahraoui, son chapitre va être traduit en latin et en hébreu à partir du XIIe siècle. Et là, malheureusement, on ne peut pas voir, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais ils pourront le voir dans l'exposition,
oui,
des pages au moins, où il y a dessiné de manière très fine des dizaines et des dizaines d'instruments chirurgicaux avec leur nom, avec l'acte chirurgical qu'il est possible de réaliser avec cet instrument et avec des explications sur les maladies, etc., dans le livre. Et puis on peut dire la même chose pour d'autres livres, mais qui sont moins bien connus. Donc comme un livre d'Ibn Issa, qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom, sur l'ophtalmologie. C'est un livre aussi qui contient des instruments pour
commencer à la chirurgie. Mais ce qu'on retient, c'est quand même qu'il y a eu de la chirurgie déjà à cette époque.
Ah, de toute manière, oui, oui, il y avait de la chirurgie, mais de plus en plus perfectionnée. Et évidemment, ils avaient des problèmes, parce que la chirurgie va se heurter à un problème fondamental, c'est l'anesthésie,
oui, oui,
c'est la douleur.
Oui, 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 oui.
Donc ils avaient des moyens d'atténuer la douleur, par l'opium en particulier, par la glace aussi, pour la chirurgie un peu locale, hein, une sorte d'anesthésie locale si vous voulez.
Oui.
Mais quand même, le grand saut qualitatif, c'est lorsqu'on trouvera une anesthésie générale.
Ça,
mais n'empêche
ça
que,
va tout changer.
N'empêche que jusqu'au 14e, 15e siècle, ce 30e chapitre de Zahraoui était le livre de chevet des chirurgiens européens, et en particulier un grand chirurgien français du XIVe siècle qui s'appelle Guy de Chauliac. Et dans son livre de chirurgie, il cite le livre de Zahraoui qui est du XIe quand même. Il le cite plus de 200 fois. Donc c'est vraiment une référence.
Ah oui, 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 c'est le mot. Comment est-ce que je dirais les sciences arabes et la médecine arabe a fait face? Vous avez parlé de la variole, la rougeole, surtout la variole, hein, ça a dû faire beaucoup de dégâts.
Alors, c'est les épidémies qui ont absolument impressionné les gens, c'est surtout la peste et le choléra.
Oui, ça, c'est...
En particulier les pestes du 13e-14e siècle. Et là, il y a eu un tournant. Jusqu'à cette époque, il y avait une idée non scientifique qui était générale dans toutes les mentalités, n'est pas spécial au pays d'islam, c'est que c'est une fatalité, c'est Dieu qui châtie le malade. Donc c'était plutôt individuel, donc la maladie était individuelle, s'il a la peste, c'est parce qu'il est châtié par Dieu, il a fait des méfaits, il a fait des péchés, il a eu des péchés.
C'est un pécheur,
voilà,
et donc il
voilà.
est puni.
Mais il n'y avait aucun lien. Et à partir du XIVe siècle, milieu du XIVe, des médecins qui ont observé la maladie, qui ont essayé de soigner, certains en sont morts d'ailleurs, en particulier en Andalousie au Maghreb, essentiellement d'après les historiens aujourd'hui, hein, peut-être qu'on en trouvera en Orient, mais pour le moment, c'est ça, ils ont remarqué des choses, ils ont observé, ils ont réfléchi comme un bon scientifique. Et ils ont émis des, non pas des hypothèses, mais des affirmations. Et je vous ai apporté une petite citation du XIVe siècle, qui n'est même pas d'un médecin, mais qui a dû évidemment prendre ça de médecin, de ses collègues, mais qui est un grand intellectuel, qui s'appelle Ibn al-Khatib, qui a été ministre à Grenade, qui est contemporain d'Ibn Khaldoun, et qui était son ami. Absolument, ils ont été ministres, parfois à la même époque, l'un à Grenade et l'autre à Fès ou à Tunis. Alors, que dit Ibn al-Khatib en parlant justement de ces épidémies? Il dit, ce ne sont pas des punitions divines. Il dit, il y a de la contagion. Or, ça, c'est capital.
Ah oui, ça change tout.
C'est le tournant. Parce que les auditeurs ne le savent pas, même les auditeurs peut-être spécialisés en médecine ne le savent pas, cette idée, si elle avait été développée, mais là, malheureusement, elle a été donnée, exprimée.
Au XIVe siècle.
Au XIVe siècle, où les choses commencent à se gâter.
Oui.
Alors, regardez, d'une manière explicite, il dit la chose suivante.
Page 324, voilà.
Oui, page 324.
C'est bien ça. Oui, c'est bien ce que je vois.
Voilà.
Vous avez amené le livre.
Et si on disait, comment peut-on postuler l'idée de contagion alors que la législation musulmane a nié cela? Nous disons, l'existence de la contagion a été établie par l'expérience, l'induction, les sens, l'observation, les informations répétitives. Et c'est là la matière de la preuve.
Donc ça, c'est
superbe.
Oui, oui, c'est irréfutable, quoi.
Ce n'est pas une affirmation comme ça intellectuelle.
Exactement, oui.
Et donc ça ne vient pas de lui, ça vient d'autres médecins. Or, les spécialistes ont cherché. Et effectivement, ils ont découvert au moins deux médecins qui ont eu la même position, mais ce sont eux des praticiens. Il y en a un qui s'appelle Ibn Khatima, il faut retenir ces noms-là, parce que peut-être qu'un jour on découvrira leur livre, Ibn Khatima, et un autre qui s'appelle Ash-Shaquri. Ils sont tous de l'Occident musulman. Donc vous voyez, voilà un apport, tardif bien sûr,
mais
de la médecine des pays d'islam.
Oui, oui, mais essentiel, parce qu'après c'est un grand tournant. Jusqu'à maintenant, on n'avait parlé que des êtres humains. Bon, les animaux, ils ont aussi leur place hein, sur la planète. Quel était leur sort en pays d'islam, puisque les arts vétérinaires ont été élevés au rang d'art, puisque, comme son nom l'indique.
Comme les êtres humains vivent avec les animaux, et que, comme vous le savez, ils ont besoin des animaux d'abord, à la fois parce qu'ils leur rendent service, et puis aussi parce que ce sont leurs compagnons, pour des raisons affectives. Bien. Et donc pour ces deux raisons, au moins, indépendamment d'une attitude culturelle, qu'il ne faut pas faire souffrir un être vivant, qui vient d'ailleurs du Coran et du prophète, et qui vient aussi de toutes les pensées, les religions et même les pensées populaires humaines. Bien. Donc est apparue une attitude globale, qui est qu'on s'intéresse aux animaux, qu'on essaie de préserver leur santé, qu'on essaie de les nourrir correctement, de soigner leurs bobos, voilà, bien sûr, de les faire reproduire correctement, d'essayer même d'optimiser la reproduction. Là, ça devient un élément économique.
Oui, oui.
De les rendre plus efficaces pour produire quand ils sont, quand ils tournent, par exemple,
oui,
par la noria.
Ou les
moulins.
Les bœufs de la,
voilà.
Qui traînent, qui, oui, pour la charrue.
Voilà. Quand il s'agit aussi d'aller chasser, il faut entretenir le faucon. Il faut, ou l'épervier, pour qu'ils sachent, aller chercher la proie.
Les pigeons, puisque vous avez parlé des pigeons voyageurs.
Les pigeons voyageurs, qui sont un élément absolument fondamental.
De communication.
Oui. Donc il fallait absolument pouvoir les soigner, les nourrir, etc. etc. et les faire reproduire convenablement. Donc là, nous avons des traditions populaires, des traditions locales, dans toutes les régions de l'Empire musulman. Et puis il y a eu aussi des ouvrages. Donc ils vont prendre des ouvrages grecs, à notre connaissance. Donc ils vont trouver d'ailleurs en fait des informations sur les animaux dans les ouvrages agronomiques. Qu'on a évoqué déjà.
Oui, oui.
Voilà. Et en particulier, il y en a un qui a réservé des chapitres plus intéressants pour les animaux. C'est Théomnestos de Tyane. Voilà, c'est compliqué à prononcer. Théomnestos de Tyane. Il a écrit un livre sur la science vétérinaire. Partie ou moins d'un grand livre sur la science vétérinaire. Et donc, les Arabes vont traduire, comme d'habitude. Et puis, ils vont écrire des livres. Les premiers livres ont été écrits, l'un des premiers a été écrit par un homme de lettres, mais qui concerne les animaux. C'est le Jahed, le fameux Jahed. Qui a écrit Kitab al-Hayawan et qui décrit
le
les
livre
animaux.
Des animaux.
Absolument. Qui décrit les animaux, qui explique comment les soigner, comment les élever, etc. pour la reproduction. Et puis qui raconte aussi des histoires drôles sur les animaux, des histoires aussi extraordinaires sur les animaux. Et puis il y a eu les gens qui vont se spécialiser ou bien qui vont essayer de considérer, d'interpréter la situation des sciences vétérinaires. Al-Farabi, par exemple, qui est un philosophe, lui, eh bien à un moment donné, dans sa classification des sciences, il a éprouvé le besoin de mettre comme discipline scientifique, mais les sciences vétérinaires et la zoologie. Pourquoi? Parce qu'il a considéré, parce qu'il a entendu dire que c'était devenu un chapitre de la médecine, un chapitre de l'agronomie aussi, et que c'était en train de s'autonomiser comme discipline à part entière. Donc lui ne fait que refléter une situation de développement d'une nouvelle branche. Et c'est comme ça que on voit apparaître donc dans sa classification la zoologie et les sciences vétérinaires. Il y a aussi un groupe d'intellectuels qu'on appelle Ikhwan Safa, qui ont réservé un chapitre entier, le chapitre 8 je crois, uniquement aux animaux, à la zoologie, et puis à tous les problèmes.
Ils n'ont rien oublié, voilà. En fait.
Et ensuite, évidemment, il y a eu des livres. Alors, je ne veux pas embêter les auditeurs, mais il y a toute une liste d'ouvrages consacrés uniquement aux animaux, en particulier, bien sûr, aux animaux nobles, comme le faucon et le cheval.
Le cheval.
Mais le chameau aussi, les pigeons, etc. Et on les étudie selon ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà.
Sans oublier, évidemment, les animaux domestiques, même si on doit ensuite les mettre à la cuisine.
Absolument.
Vous vous sentez mieux ce soir, mais en tout cas, je me sens bien de vous avoir écouté avec le même bonheur, le même plaisir. C'est toujours trop court. Ah oui, un tout petit mot, que la médecine arabe en Europe, elle a fini par y arriver grâce à de grands médecins.
Ben je pense que l'agronomie, la zoologie a dû aussi circuler, mais c'est la médecine qui a le plus circulé vers l'Europe. Ça a commencé dès la fin du XIe siècle rapidement, par une sorte de supercherie, hein, parce que c'est Constantin l'Africain, qui est un intellectuel d'origine du Maghreb d'ailleurs, de Carthage, et qui a appris le latin, ou qui était déjà chrétien, hein, c'est possible, en tout cas qui connaissait l'arabe, et qui, à la fin du XIe siècle, va aller à Salerne, dans le sud de l'Italie, et il va publier une dizaine d'ouvrages de médecine, mais d'une richesse absolument extraordinaire, alors que l'Europe ne connaissait pas ces ouvrages. N'avait jamais produit l'Europe d'ouvrages qui dépassent 100 pages, voilà, et d'un niveau faible. Et ces livres-là vont être à la base de la tradition médicale européenne. Et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e, qu'on a remarqué la supercherie, c'est qu'en fait ce n'était pas lui l'auteur, il n'a fait que traduire des ouvrages importants de médecine écrits à Kairouan, comme des livres de Ibn al-Jazar, d'Ibn Imran, ou alors à Bagdad, comme les livres d'El Majoussi. Et il a mis son nom.
C'était tellement plus rapide.
Bon, mais après, en fait, les vraies traductions vont commencer au début du XIIe siècle et vont s'étendre au XIIIe, XIVe siècle. On a traduit le canon d'Avicenne, les colligés d'Averroès. On a traduit, en particulier, comme je l'ai dit, le 30e chapitre de la chirurgie de Zahraoui et d'autres qui sont moins importants. On a traduit, bien sûr, des livres d'Abou Bakr al-Razi. Et donc là, les Européens étaient armés pour se lancer dans l'aventure médicale comme bons héritiers des Arabes et des Grecs.
Eh bien, ce sera le dernier mot pour cette émission ce soir, qui était consacrée à la médecine, les sciences vétérinaires, la pharmacopée, la pharmacie, tout le génie, je dirais, des sciences arabes à cette époque bénie, qui ont fait que ça nous parvient jusqu'ici et qui nous est conté avec autant de passion chaque semaine par le professeur Djebbar. Merci en tous les cas, bonne semaine à tous et rendez-vous donc dans 8 jours.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Djebbar. Présentation Dalila Smaïl. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fourage.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.